I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie?
Je vous en prie.
Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
Au commencement était l'action.
Continuez à inventer. Je sais pas ce qui vous attend, je sais pas ce qui va se passer, mais on peut pas tout piloter. Vivez-le à fond.
Je suis Sarah Crosetti et vous écoutez La Bascule. Ici, on s'invite dans l'intimité d'hommes et de femmes au parcours inspirant et singulier. On questionne l'art et la manière dont ils habitent le monde, le remettent en question et le redessinent à leur façon. On discute de ce qui les fait vibrer, des moments clés de leur existence où ils ont basculé vers d'autres horizons que ceux vers lesquels on les avait orientés jusque-là. Écoutez leurs témoignages, écoutez-les redessiner le monde, en espérant que cela vous donne à votre tour l'envie de basculer vers de nouveaux horizons.
Je me retrouve à Dubaï toute seule, mon mec qui part au travail dès le lendemain, je me retrouve dans une petite chambre à côté de la Sheikh Zayed Road, qui est la rue la plus bruyante de Dubaï et passante de Dubaï, venant de quitter mon CDI, et le Covid qui arrive. Je vis une période d'angoisse extrême, j'ai des douleurs vraiment partout, sur tout le corps, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien dans mon corps.
Aujourd'hui, je rencontre Laura Pouliken, fondatrice du podcast L'Aléa, dans lequel elle reçoit de nombreux intervenants pour aider les auditeurs à sortir de leur zone de confort et maximiser leur potentiel. Mais Laura est aussi ce qu'on appelle une slasheuse, c'est-à-dire qu'elle vit de plusieurs activités et tord le cou à l'idée reçue selon laquelle il ne faut se concentrer que sur un domaine si l'on veut être bon. Productrice de contenus digitaux, prise de parole, animatrice d'événements et podcasteuse, Laura jongle habilement entre toutes ses activités et ses deux enfants en bas âge. Il y a quelques années, alors qu'elle est journaliste à Paris, Laura quitte tout pour suivre son mari à Dubaï suite à une opportunité professionnelle. Ça ne se passe pas comme prévu. Laura fait une grave crise de sens et se lance dans une introspection qui va durer de longs mois. Elle raconte ici son cheminement, ce qui l'a aidée, et comment elle s'est progressivement réinventée avec des activités en indépendante. Elle parle aussi de son rapport à l'argent, de l'importance de la visualisation et de la difficulté d'être mère et d'entreprendre en même temps. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Laura derrière son micro d'intervieweuse. Belle écoute!
Je m'appelle Laura Pouliken, j'ai 34 ans, je suis maman de deux enfants qui ont 1 an et 4 ans, enfin presque 4 ans. Je suis productrice de contenu écrit et audio sur plusieurs médias, du podcast à l'Instagram. Ma passion dans la vie, c'est vraiment de transmettre des émotions, de transmettre des beaux parcours, des belles histoires à mes auditeurs et à mes lecteurs.
Et donc, nous, on s'est rencontrés dans le cadre de ton podcast, L'Aléa, parce que du coup, tu interviews pas mal de gens sur, de manière générale, leur parcours, leurs obstacles, les choses qui les ont fait vibrer, les aléas qu'ils ont aussi rencontrés. Ça fait combien de temps que tu fais ce podcast ?
Oula, alors déjà, ça fait à peu près 10 ans que j'ai connu en fait l'exercice de l'interview, parce que mon premier stage en fait en entreprise, c'était chez Melty, qui est aujourd'hui un énorme groupe, mais qui à la base était une toute petite start-up, on était 7-8, j'étais vraiment dans la première équipe. Donc vraiment, j'étais journaliste, j'ai découvert l'interview, donc je me suis tout au fil de mon parcours, puisque j'ai travaillé pour beaucoup de magazines en tant que reporter, pour par exemple From Paris, pour aussi, j'ai travaillé aussi chez Au Féminin. Donc vraiment, j'ai eu l'occasion de faire beaucoup d'interviews tout au fil de ma carrière en CDI. Donc l'interview, c'était quelque chose que j'adorais. J'adore rencontrer les gens, j'adore leur poser des questions, comprendre un petit peu ce qui les anime pour comprendre pourquoi ils en ont comment ils en sont arrivés où ils sont aujourd'hui. Donc, c'était très naturel pour moi d'avoir un podcast que j'ai lancé il y a à peu près 3 ans et demi. Le temps passe vite, mais c'était il y a 3 ans et demi puisque j'étais en congé mat de ma première fille.
Et donc, tu disais effectivement que tu adorais interviewer les gens. Toi, ta formation, c'est journalisme, du coup ?
Pas du tout. C'est école de commerce parce que j'ai papa-maman qui m'avait dit, surtout papa, moi, j'ai 4 enfants et tous mes enfants feront une école sup de co. Donc, du coup, j'ai fait la bonne école de commerce que je ne regrette pas du tout parce que j'ai appris plein de choses. J'ai fait d'abord un IUT, en fait, gestion entreprise administration, et ensuite une école de commerce. Donc, je suis arrivée à Bac plus 5 et je ne regrette pas du tout ces deux formations, donc IUT et école de co, parce que j'ai appris plein de trucs et j'ai surtout appris à travailler en fait en IUT école de commerce. On a beaucoup de matières, on a beaucoup du coup de partiels, et donc du coup vraiment j'ai eu des méthodes de travail rapides et une gestion en fait de une manière de réfléchir et une gestion bonne pour qui me sert aujourd'hui dans mon métier. Mais par contre j'ai fait beaucoup de stages en fait en entreprise qui étaient plutôt dans la communication et dans le journalisme. Et à côté, parce que j'ai toujours bossé en fait à côté de mon CDI, j'ai toujours eu des petits jobs, donc des trucs qui me passionnaient, payant en fait des jobs où j'étais payée ou pas en fait, mais où j'allais à la rencontre des gens et où j'avais l'occasion de faire des interviews.
Ok, donc c'est dans ce cadre-là que tu montes le podcast quand tu es encore en CDI.
Alors, exactement. Je monte mon podcast il y a 3 ans et demi quand je suis encore en CDI à Paris en agence.
Et à l'origine, tu te rappelles pourquoi tu le montes, ce podcast ? C'est parce que c'est un peu... parce que, comme tu le dis, c'est un peu ta passion de rencontrer des gens, ou déjà, tu as un peu d'autres objectifs ?
Je le monte parce que, déjà, j'ai un blog aussi à côté depuis 10 ans, à ce moment-là. Donc, ça fait à peu près 13 ans aujourd'hui que j'ai mon blog. J'ai un blog lifestyle où j'écris beaucoup. Et en fait, j'ai envie aussi de m'essayer sur un autre média. Donc, c'est pour ça que je crée ce podcast. Je crée aussi le podcast parce que je me pose beaucoup de questions sur ce que j'ai envie de faire de ma vie. J'ai des rêves, mais qui ne sont pas forcément très identifiés. Je ne sais pas aussi comment atteindre certains rêves. Je sais qu'en fait, que je suis en CDI, que c'est cool, je suis contente, mais que j'aspire à autre chose. J'aspire à être indépendante depuis tellement longtemps. Et du coup, c'est très logique pour moi de créer ce podcast qui, à la base, est le podcast L'Aléa, le podcast qui parle du risque et qui va à la rencontre de personnes qui ont pris des risques et qui prennent des risques au quotidien dans leur vie. Parce que ça, je sais très bien que c'est aussi une dominante de ma personnalité, que je suis toujours allée un peu en dehors de ma zone de confort. Et du coup, ça m'intéresse de creuser ça et d'exploiter ça.
Et ok, non, c'est plutôt clair. Tu parles de tes rêves, tu dis que c'est plus ou moins identifié, c'est-à-dire qu'à l'époque, donc tu sais que le CDI, ça ne te convient pas.
Ouais, voilà.
Mais en termes plutôt de pratique, de dire t'as...
Je suis heureuse en CDI, j'adore être entourée. Pour le coup, je ne suis pas du tout quelqu'un de solitaire, donc vraiment, ça me va d'avoir une équipe, d'être dans une dynamique. Mais je sais que j'ai besoin de m'accomplir avec mes propres projets, et que j'ai besoin de goûter à cette liberté d'être fière de moi. Parce que pour moi, je n'allais pas forcément être fière dans une carrière CDI. Ce n'est pas quelque chose qui me correspond. J'aspire à plus de liberté. J'aspire à me lever le matin et à construire mes journées comme moi, j'ai envie. Donc, je ne sais pas vraiment encore dans quoi. J'ai des envies d'entrepreneuriat, mais je ne sais pas si c'est... Donc, en fait, créer ce podcast, ça me permet aussi de... C'est une porte d'entrée, en fait, vers une connaissance de moi qui après va s'acquérir énormément grâce au podcast et grâce à toutes mes expériences.
Oui, quand tu dis du coup des rêves plus ou moins identifiés, ça veut dire qu'en fait, tu as déjà identifié que tu voulais potentiellement faire de l'entrepreneuriat, mais ouais. À l'époque, tu ne sais pas forcément dans quoi.
Non, je ne sais pas dans quoi. Je ne sais pas si je veux lancer une marque, je ne sais pas si je veux lancer des produits digitaux, je ne sais pas si je veux être freelance, je ne sais pas si je veux être entrepreneur. Voilà, je me pose beaucoup, beaucoup de questions.
Donc, tu lances le podcast et en même temps, tu es enceinte.
Je viens d'accoucher quand je lance mon podcast parce que je découvre le média podcast pendant que je suis enceinte. Je découvre Bliss, que j'écoute, mais je batch à vraiment parce qu'en plus, je suis alitée. Donc, du coup, je ne peux rien faire, en fait. Je suis allongée dans mon lit sous la canicule de mon appartement parisien et je n'ai que ça à faire. Même, je suis tellement fatiguée pour regarder la télé. Enfin, je ne peux pas. Donc, j'écoute des podcasts, j'écoute Bliss. J'écoute Bliss. La matrescence qui venait de commencer et Génération XX. Oui, c'est ça.
Oui, il y en a toujours deux.
Ouais.
Génération X, du coup, qui n'existe plus.
Mais que j'adore, mais j'adorais tellement. Et j'adore. J'ai rencontré la fondatrice il n'y a pas longtemps. Ouais. Exactement. J'ai rencontré un événement la fondatrice il n'y a pas longtemps. Je lui ai dit à quel point j'avais adoré ce podcast. Et du coup, ouais. Et dès que j'accouche de ma fille, donc en juillet, je commence à rencontrer mes premières interviewées en septembre et je le lance en novembre.
Et alors, tu te lances, ça veut dire juste tu te dis ok, j'achète des micros, j'achète un Zoom.
Qu'est-ce que je fais? Ouais, exactement. Je vais dans un magasin à Paris, dans une rue dont le nom m'échappe, où il y a énormément de magasins tech et enfin qui vendent en fait les micros. Et en fait, je fais tous les magasins. J'y vais sur ma pause déj de mon CDI. Parce que voilà, je n'avais pas forcément du temps, beaucoup de temps. En plus, comme j'avais mon petit bébé que j'allais chercher après le boulot. Donc du coup, je vais sur ma pause déj. Je m'en souviens, j'avais l'impression de trahir un petit peu mon employeur. Et je fais toute la rue et je demande en fait les meilleurs micros, les meilleurs enregistreurs. Et puis comment on fait un podcast en fait. Et donc, je revois le type me vendre ça, ce que je montre là qui sont les câbles XR. Et voilà, et il me montre et tout ça. Et on bidouille ensemble, j'achète ma mallette. Et voilà, et puis après je me pose, je regarde une ou deux vidéos YouTube, des tutos américains que je trouve à cette époque, et je vais pour ma première interview en présentiel qui est Kelly Bessis, que je vais interviewer d'ailleurs dans un coworking, c'est drôle.
Et donc au début tu fais ça et en même temps tu continues ton boulot, reprends quoi.
Ouais, okay. Je continue mon boulot, j'ai mon boulot et mon podcast, et d'ailleurs il me reste pas beaucoup de temps de boulot parce qu'après mon mari, on est parti à Dubaï vivre pendant 3 ans parce que mon mari a eu l'opportunité là-bas. Et du coup, je fais ça sur ma pause déj, je m'en souviens. Et après le boulot, quand c'est mon mec qui va chercher ma fille, qui était tout petit bébé à cette époque, je fais les interviews. Et j'en parle pas au début dans mon taf. Je veux pas trop que ça se sache parce que voilà, c'était mon bébé et puis j'avais pas trop envie qu'on m'écoute. Mais au début, j'en parle pas, ouais.
Et donc oui, tu le disais, c'est que en fait, tu vas pas forcément rester dans ton CDI, pas forcément à cause du podcast, mais parce que tu vas déménager.
Exactement. Ouais. On déménage. Quand je disais tout à l'heure que la prise de risque et l'audace, c'était quelque chose qui définissait pas mal ma vie. Voilà, je suis globalement toujours allée vers les choses qui se présentaient à moi. Bien sûr, je mesurais le risque, c'était pas des risques insensés, mais je me disais ok, faut y aller parce que si la vie nous présente ça sur notre chemin, c'est qu'on doit la vivre. Et donc du coup, quand mon compagnon, je sais jamais comment l'appeler, m'a dit ok, j'ai une opportunité à Dubaï, au début on s'est dit what, Dubaï, mais c'est quoi ce délire, enfin franchement, on entendait déjà parler énormément en mal de Dubaï, que c'était influenceur télé-réalité, voilà, mais ça a vraiment une image horrible. Mais je me suis dit, bah ouais, mais en fait, on y va et au pire, on revient. Et au pire, c'est pas grave. Et voilà.
Toi, tu te voyais quand même vivre à Dubaï
Non, je me voyais pas. Enfin, en fait, j'ai pas. Peut-être à tort, mais je pense pas parce que je regretterai jamais cette expérience. Mais je suis pas du genre à. En fait, non, je savais pas à quoi m'attendre, en fait. Donc, j'y suis allée. Et puis, mais je me projetais pas spécialement à ce moment-là. Je projetais pas ma vie comme elle le serait à Dubaï. Je me suis dit, OK, on y va et puis on verra.
Et toi, du coup, comment tu fais niveau boulot?
Eh ben, moi, je fais une rupture poursuivie de conjoint.
C'est vrai que c'est
Ça. Et en fait, heureusement que j'étais au courant de ça parce que c'est pas forcément évident au départ, tu le sais pas forcément.
Ouais, c'est vrai.
Et donc, du coup, voilà, je démissionne pour suivi de conjoint, ce qui me permet de toucher le chômage quand je reviens en France. Donc, par contre, t'as un délai de 4 ans pour rentrer en France. Alors, 3 ou 4 ans, ça change.
Ah, c'est-à-dire que pendant 4 ans, tu touches pas le chômage?
Non, par contre, tu le touches pas parce que t'es à l'étranger. Mais le jour où tu remets le pied en France, tu as le droit de le toucher. Si c'est dans la limite alors moi c'était 3 ans, mais avant c'était 4 ans, donc en fait il faut revenir dans les, parce que si moi j'ai des copines aujourd'hui qui sont encore à Dubaï, qui avaient fait ça, mais en fait quand t'as dépassé le terme, maintenant tu touches pas le chômage.
Ok. Oui, donc mine de rien, donc tu suis quand même ton conjoint, mais toi t'as pas de source de revenus.
Non, aucune.
Et est-ce que tu recommences à travailler à Dubaï ou alors tu peux vivre à deux sur le salaire
On peut vivre à deux, mais la vie est très chère à Dubaï, ouais. Donc il faut quand même que j'ai une source de revenus. En fait, on peut vivre avec les principales charges. Mon mari absorbe les principales charges, voilà, courantes, des appartements, de la voiture. Mais après, on a besoin de mon salaire pour se faire un petit peu plus plaisir et puis pour, voilà, tout simplement. Non, non, on peut vivre, c'est-à-dire qu'on n'est pas sous les ponts, mais on a besoin quand même de mes revenus. C'est important qu'on les ait. Après, on peut vivre, hein, y a pas de souci.
Et du coup, tu retrouves comment un boulot là-bas ?
Eh ben, je ne retrouve pas de boulot, en fait. J'en profite pour me poser des questions. Alors, il faut savoir aussi que moi, à ce moment-là, je vis une période d'angoisse sans précédent parce que, en fait, je me suis expatriée, je suis devenue maman et je me suis mariée parce qu'on a dû se marier pour aller à Dubaï. Donc, on s'est mariés express en 3 mois.
Pourquoi ? Pour des raisons pour des raisons administratives.
Exactement. Ouais. En fait, à l'époque, maintenant, ça a changé depuis le Covid, mais on ne pouvait pas vivre sous le même toit qu'un homme, en fait, sans être marié. Ce n'est pas possible. Et encore moins avoir un enfant. Impossible. Virer du territoire en 3 secondes.
Ah ouais.
Ouais, ouais. Et même voir sinon plus. Hein, parce que là-bas, ils ne blaguent pas. Hein. La loi ne blague pas.
Oui, okay.
Il peut y avoir la prison et compagnie. Hein. Donc, donc, ça ne blague pas, Dubaï, sous ses airs. Maintenant, ils ont fait sauter la loi du mariage. Mais à l'époque, donc, on s'est mariés en 3 semaines. Donc, il y a eu un nombre de préparatifs à faire horrible, c'était vraiment stressant.
Ouais, mais au moins, tu vois, t'as pas cette partie pendant 8 mois, ouais. Tu vois, tu prends la tête.
C'est ça. Et donc, du coup, je fais ça, donc on se marie, j'ai quand même eu mon petit bébé, donc que je trimballe, donc on arrive à Dubaï à la 6 mois, donc c'est quand même un tout petit bébé, moi je suis maman pour la première fois, je me retrouve à Dubaï toute seule, mon mec qui part au travail dès le lendemain, je me retrouve dans une petite chambre à côté de la Sheikh Zayed Road qui est la rue la plus bruyante de Dubaï et passante de Dubaï, avec aucun itinéraire de balade parce qu'à Dubaï c'est très difficile de se balader parce qu'en fait tout se fait en voiture. Donc venant de quitter mon CDI, donc et là et le Covid qui arrive, donc là je vis une période d'angoisse extrême où j'ai des douleurs vraiment partout sur tout le corps, je suis pas bien dans ma peau, je suis pas bien dans mon corps, enfin vraiment c'est pas un postpartum, parce que comme on entend parler quand on a un bébé et quand on a une dépression postpartum, moi, c'est pas vraiment ça. C'est une angoisse qui se manifeste parce que je suis maman, je pense, très loin de mon pays, enfin de la France, en fait. Donc, du coup, et cette maternité, en fait, me renvoie aussi à mon sentiment, à ma finitude, en fait, au fait qu'un jour, moi, je vais mourir et donc je vais pas forcément être là pour elle. Et j'ai aussi beaucoup de traumas d'enfance qui me reviennent, enfin tout me revient en fait, mais c'est ce que je dis toujours, on n'est pas assez préparé en fait à ce que peut amener en fait la maternité et à toutes les choses qui peuvent se manifester en nous quand on devient maman auxquelles on n'a pas conscience parce que ça nous renvoie à notre enfant intérieur. Et donc du coup je vais une période extrêmement compliquée à ce moment-là. Et donc du coup non, le travail
que t'es pas hyper entourée en plus parce que si ton mari il est occupé.
Ah non, je suis toute seule. Je suis vraiment toute seule.
T'arrives pas forcément à retrouver les expats.
Non, et puis en plus, comme c'est le Covid, en fait, le confinement commence en fait, très rapidement. Bah, donc du coup, j'ai même pas eu le temps de me faire des copines. Donc en fait, mon seul travail à ce moment-là, c'est apprendre à me connaître et aller plonger en fait dans moi pour me guérir et pour éviter en fait de transmettre tous ces petits traumas de la vie en fait à mes enfants plus tard.
Et alors, comment tu fais ce travail, du coup ? Est-ce que tu es seule ? Est-ce que tu te fais accompagner ?
Je me fais accompagner, ouais. Clairement, je me fais accompagner. Je fais ce qu'on appelle les constellations familiales, en fait, avec Anne Cazobon. Anne Cazobon, c'est une coach en développement personnel que j'ai reçue sur mon podcast, du coup, la Léa, qui, en fait, travaille justement sur les constellations familiales. C'est une constellation familiale, ça permet de mettre en lumière la manière dont nous sommes liés à nos ancêtres. Et l'objectif de cette thérapie, c'est de rétablir l'ordre dans le système familial et de permettre à chaque membre d'avoir sa place et d'assumer ses responsabilités, en fait. Et donc, ça me permet, en fait, de trouver, moi, ma place en tant que maman, de trouver ma place en tant que mère, de trouver ma place en tant que fille de ma mère et de devenir, en fait, de me redécouvrir en tant que maman à mon compte. Et voilà. Donc, ça, je fais ce travail-là.
Et ça dure combien de temps ?
Bah, c'est plusieurs séances, en fait. Nous, on le fait à distance. C'est mieux de le faire en vrai, mais on le fait à distance sur Zoom. C'est à chaque fois 1 heure. Et ça me permet aussi de... Parce que moi, j'ai eu une peur vraiment bleue de la mort quand je suis devenue maman, de ma propre mort. Et donc, du coup, ça me permet aussi ce travail de conciliation familiale, de faire rentrer la mort, d'avoir, de guérir mon rapport aussi à ma propre mort. Enfin, voilà, c'est vraiment un travail de, voilà, de remise en place de chaque... Enfin, de trouver sa place, en fait, pour chacun.
Donc ça, tu le conseilles. Mais tu le conseilles plus dans un cadre familial, en fait. C'est pas forcément adapté pour quelqu'un qui est seul.
Je le conseille quand on a des... Quand on a des problèmes, en fait... Quand on a des problèmes, en fait, d'identité et de problèmes de ne pas savoir ce qu'on veut faire de sa vie, de problèmes de désalignement, en fait. Je le conseille parce que c'est une thérapie, en fait, comme une autre. Donc ouais, carrément.
Et tu vois vraiment une progression à partir du moment où tu commences ce truc. Après, peut-être que tu t'acclimates aussi à Dubaï.
Non, je ne m'acclimate pas à Dubaï pendant plus d'un an. Mais je vois une vraie amélioration avec ça. Je vois des énergéticiennes aussi. Donc ça me fait vraiment beaucoup de bien. Je fais du Reiki aussi. Je me fais faire assez rapidement mon thème numérologique. Puis après, quelques mois après, mon thème astral. En fait, vraiment...
Ah oui, t'es vraiment allée hyper loin.
Ah
dans...
mais oui, moi, j'ai tout fait, en fait. Enfin, vraiment, en 6 mois. J'avais des douleurs tout le temps, je savais que j'étais en désalignement. J'arrivais pas à comprendre la source de ces douleurs. Et donc, du coup, je suis vraiment allée creuser en moi pour me connaître, pour comprendre pourquoi, en fait, j'avais tous ces blocages. Et donc, du coup...
Et au final, tes douleurs, elles disparaissent quand
ouais,
t'arrives
elles
un
ont,
peu
bah, ouais. En fait, ouais, au final, elles ont disparu, ouais. Au final, grâce à tout ça. Parce que j'ai compris aussi que je faisais de la spasmophilie, en fait, et que j'avais une dérégulation de mon système nerveux. Et donc, en fait, du coup, bah, ouais, j'ai réussi avec tout ça, en fait, avec tout ce travail, à gérer mon angoisse de plus en plus.
Ok, donc ça te prend quelques mois,
ouais, ça me
un
prend,
an.
Ouais, bah, en tout, j'ai travaillé sur moi pendant 3 ans, mais ouais, je suis allée beaucoup mieux déjà au bout d'un an et demi, ouais. Au bout d'un an et demi, ouais.
Et donc, quand tu disais que t'es restée 3 ans à Dubaï, c'est ça ? C'est-à-dire qu'ensuite, t'essayes de retrouver un travail ou tant que t'étais à Dubaï...
En fait, je voulais travailler pour moi. Donc, okay. J'ai commencé en fait à travailler pour moi aussi en parallèle. Donc, il y a eu la période où il y avait des périodes où j'allais très mal et donc du coup, je travaillais sur moi, mon développement personnel et ma connaissance de moi-même. Et sinon, en parallèle, je travaillais sur moi, mes projets, en fait, ce que j'avais envie de faire à mon compte. J'ai essayé plein de trucs. J'en ai raté plein aussi du coup. Et en fait, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin, voilà, en testant beaucoup de choses pour voir aussi ce qui me convenait professionnellement parlant.
Mais ça, c'est bien aussi de, tu vois, d'en parler, de dire que t'as pas forcément ton plan qui est établi. Enfin, toi, après, c'était pas décidé forcément que tu quittes ton travail, mais tu vois, cette phase justement où tu tâtonnes, où tu testes des trucs, il y a des trucs qui marchent, il y a des trucs qui marchent moins. Tu vois, c'est bien aussi que t'en parles et de dire que s'il y a des gens qui ont envie de quitter leur boulot, bah peut-être que la solution, ça va pas s'enchaîner de manière homogène.
Ah mais totalement, bien sûr, c'est clair. Et puis au début, je trouve que c'est... Enfin, à part ceux qui ont un plan précis, c'est rare d'avoir quand même un plan parce qu'à partir du moment où t'as jamais été entrepreneur, t'as jamais été à ton compte, tu sais même pas ce que c'est un business plan. Alors c'est vrai qu'on dit que... Enfin, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui disent qu'on s'en fout un peu d'un business plan, mais moi, c'est aussi... Je suis devenue rentable le jour où j'ai fait un business plan aussi dans mes activités parce qu'au départ, je pataugeais un peu dans la small, donc... c'est bien sûr. Et puis, je pense que, comme tu l'as dit aussi juste avant, c'est vraiment tester beaucoup, beaucoup de choses pour savoir déjà si ça marche, si ça va te plaire à toi, si ça va plaire aux autres et si ça va te rapporter, qui est quand même le nerf de la guerre aussi quand t'es à ton compte.
Donc, ouais, parce qu'aujourd'hui, donc, comme tu le disais au tout début, tu as une activité de... production un
aujourd'hui
peu de
en fait ce que je fais c'est que j'ai plusieurs sources de revenus. Donc j'ai une source de revenus via mon compte Instagram Le From Paris où je fais des partenariats, j'ai une source de revenus via mon podcast L'Aléa quand j'ai des sponsors, j'ai une source de revenus via mes clients. Donc, j'ai lancé pas mal d'offres. En fait, au départ, quand je suis arrivée à Dubaï, j'ai lancé une formation podcast, une formation en ligne à suivre en autonomie, que j'ai vendue un petit peu. J'ai pas assez communiqué dessus parce que j'avais un syndrome de l'imposteur plus, alors que je l'avais faite relire par plein de copines podcasteuses qui avaient dit que c'était canon. Mais bon, voilà, les femmes, on a un plus gros syndrome que les hommes, faut le savoir.
Attends, donc ça, cette formation, tu l'as arrêtée ?
Bah, en fait, je l'ai vendue pendant un an et demi. Et après, j'ai arrêté de communiquer dessus parce que le podcast avait tellement évolué entre-temps qu'elle elle était obsolète et je n'ai pas pris le temps de la refaire.
Ouais.
Parce que j'avais d'autres envies, donc j'ai lancé une formation podcast au départ. Après, j'ai lancé des accompagnements podcast en individuel, chose que j'ai bien aimé faire, mais j'étais pas rentable pour le coup. Ça me prenait beaucoup de temps par rapport à l'argent que je gagnais. J'aurais pu passer en accompagnement de groupe, mais c'était pas ce que j'avais envie de faire. Donc j'aimais bien l'individuel. Donc ça, j'ai fait ça. Ensuite, je suis repassée, en fait, comme moi, de formation. Du coup, j'ai une école de commerce et pendant mes CDI, j'étais en social media et en copywriting. J'ai proposé des services à des marques de social media et de copywriting.
Pour ceux qui ne savent pas, donc social media, ouais, on voit un peu plus. Copywriting, c'est effectivement des prestations écrites.
Exactement. Pour des pages de vente, des newsletters, des sites internet, des articles de blog, voilà. Donc j'ai fait ça aussi. Enfin, voilà. Et aujourd'hui, ce que je fais, donc, c'est vraiment source de revenus via Love From Paris, source de revenus via l'Aléa et source de revenus via mes différents clients en création de contenu écrit. Voilà.
Ok, donc copywriting un peu.
Voilà, copywriting, okay. Ouais.
Mais ça, comme tu dis, effectivement, ça t'a pris du temps de tester des choses, ouais, voir là où tu étais rentable, là où en fait ça te prenait trop de temps.
Bien
en fait,
sûr.
Ça, tu ne peux pas le savoir avant d'avoir testé.
Jamais. Ouais. Impossible. Et on peut, exactement, impossible. Vraiment, hein. C'est vraiment en testant plein de business models différents qu'on voit en fait ce qui nous plaît le plus et ce qui plaît le plus aux clients et dans quoi on est rentable en fait. Moi, sur cette dernière année, là, l'année dernière, j'avais une offre qui s'appelle Insight Podcast, qui était un call. Un seul call en fait d'une heure, une heure et demie où je répondais à toutes les personnes qui avaient des questions sur le podcast. Je leur délivrais en fait ma valeur pendant une heure et demie et ça marchait très bien et pour le coup c'était quelque chose que j'adorais faire et où j'étais rentable. Donc ça, je l'ai fait pas mal l'année dernière. Je vais le reprendre, je pense, en septembre parce que ça me prend pas beaucoup de temps. J'adore ce que je fais et tout le monde est content. Les gens qui finissent le call sont hyper contents. Donc voilà, mais c'est ce type d'offre que j'ai pu lancer. Enfin, franchement, j'ai lancé pas mal de trucs.
Ok, mais parce que là, je pense vraiment à des gens, tu vois, qui peut-être hésitent, qui sont peut-être en salarié et qui, ouais, hésitent à se lancer en indépendant sur une expertise qu'ils ont. Tu vois que ça peut être la com, du social media, beaucoup de choses. Toi, du coup, ton conseil, ce serait quoi pour tester un peu, parce que c'est compliqué, tu vois, tester les modèles, les choses qui peuvent fonctionner.
On dit toujours, en fait, et ça, c'est qu'il faut toujours la méthode du MVP, minimum viable product, en fait. Et c'est vraiment, moi, c'est ce que j'ai fait, en fait, pour tout ce que j'ai lancé, c'est que pas besoin d'avoir un produit fini, d'avoir un accompagnement béton, d'avoir fait XX formation sur le copywriting, il suffit d'une, si c'est pas notre formation principale, pour proposer des services et communiquer où vous voulez, via une newsletter, via LinkedIn, via Instagram, même bouche à oreille en fait. Pas besoin d'avoir une version aboutie et finalisée d'un produit ou de quelque chose qu'on veut proposer avant de le proposer en fait. Parce que votre produit ou n'importe quelle offre que vous allez proposer, elle va évoluer en fonction de vos premiers retours et vos premiers clients. Moi, mon premier accompagnement podcast par exemple, c'était avec Patrick, je me souviens. Et lui, il m'a fait des milliards de retours, en fait. Et donc, c'est grâce à ces retours aussi que j'ai pu faire évoluer en fonction des besoins. Alors que si j'avais attendu que mon accompagnement, il soit, mais chiadé à l'extrême, à la virgule près, et bah, du coup, bah, j'aurais passé énormément de temps à avoir un produit qui est pas qui est peut-être béton, mais qui ne va pas forcément plaire, qui ne va pas répondre aux besoins. Donc moi, ça, c'est mon premier conseil, c'est que peu importe ce qu'on a envie de faire, lançons une version brute et ensuite améliorons en fonction des retours, en fait. Ça, c'est vraiment mon principal conseil. Parce que j'ai pu lancer, par exemple, ma formation podcast qui était parfaite. J'ai passé beaucoup trop de temps à la faire parce que c'était mon tout premier produit, on va dire, que j'ai lancé quand j'ai quitté mon CDI. Et en fait, j'ai passé beaucoup trop de temps alors qu'au final, j'ai à peine communiqué dessus parce que j'avais un syndrome de l'imposteur. Donc, en fait, j'aurais pu... En fait, la lancer peut-être en version moins chère et avoir des retours, enfin, tu vois. Donc, pour moi, c'est vraiment mon principal conseil.
Non, mais c'est déjà pas mal. Okay. Et si on revient sur ton parcours perso, donc, parce que tout ça, tu le lances quand t'es en France, quand t'es revenu.
Non, je lance quand je suis à Dubaï.
Ah, tu le lances, ouais, quand même quand t'es à Dubaï.
Ouais, ouais, okay. Parce que ça fait 6 mois que je suis revenue, 5 mois même. Okay. Que je suis revenue en France.
Ok, oui, parce que je voulais... Donc, effectivement, donc, tout ça, tu le lances de là-bas, ah, donc, oui, c'est quand même pas évident.
Moi, je suis revenue en janvier de Dubaï.
Et donc, au retour, c'est quoi tes premières impressions quand tu reviens en France après 3 ans
d'expat? Je suis super contente.
Ah ouais?
Bah ouais, parce que j'ai loupé beaucoup d'opportunités aussi à Dubaï. Hein. Moi, j'étais vraiment... on m'a proposé d'animer des podcasts quand j'étais là-bas, que je ne pouvais pas parce que j'étais en France, parce que j'étais à Dubaï, donc je ne pouvais pas revenir en France. On m'a proposé d'animer des événements parce que j'ai aussi toute cette casquette animation de podcasts et d'événements. Donc je pouvais pas le faire. J'étais beaucoup invitée via mon blog, mon compte Instagram, des événements et tout ça. Je pouvais pas y aller. Ah non, j'ai tellement loupé de contacts et de non. J'étais tellement heureuse quand on est rentrée. Alors c'était dur parce qu'on a vécu 3 ans là-bas, donc on a plein de souvenirs familiaux. On s'est fait des amis quand même qu'on adore et tout. Mais on était trop heureux de revenir en France.
Ouais. Ouais. Et là, pareil, au bout de 6 mois, t'as le même sentiment.
Ouais, trop contente.
Ok.
Ouais.
Et du coup, donc maintenant que tu es en France, est-ce que tu as des projets que tu as envie de développer? Est-ce que tu as des choses un peu en tête, tu vois?
Entre-temps, j'ai accouché de mon petit garçon qui a 1 an en France, à Dubaï, pardon. Donc, du coup, là, je le garde. Donc, j'ai pas trouvé de mode de garde. Donc, je le garde depuis qu'on est rentré, depuis janvier. Donc, forcément, j'ai beaucoup moins de temps pour la strat, en fait. Je suis dans l'opérationnel, c'est-à-dire que je continue mon podcast. J'ai gardé un client. Deux clients, mais vraiment un sur de la création de contenu que j'avais à Dubaï. Mais du coup, je ne me suis pas posée sur la strat. Mais ce que j'ai envie de faire, c'est continuer à créer du contenu sur mes plateformes parce que j'adore, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur mon podcast. Et voilà, et aussi de faire un petit peu d'animation d'événements et de speaking en fait sur des sujets. Comme le bien-être, le développement personnel. Actuellement, c'est ça mes projets, mais après, ça peut évoluer.
Et est-ce que ça t'arrive de douter parfois de ce que tu fais, surtout tu vois, quand tu as énormément d'activités différentes comme toi?
Oui, bien sûr que ça m'arrive de douter. Et j'ai beaucoup appris, en fait, dans cet art du slashing un petit peu et de cumuler. Déjà, j'ai compris que j'étais comme ça. Il m'a fallu beaucoup de temps pour accepter en fait, le fait que j'étais multipotentielle, que j'étais plurielle, parce que c'est quelque chose qui est très mal vu dans notre société, où on est beaucoup plus sur des profils experts, spécialisés, spécialistes.
On te dit ça, souvent de faire une chose à la fois.
Exactement. Ouais. Donc ça, déjà, j'ai mis vraiment quelques mois à accepter ma pluralité. C'était hyper dur parce que j'essayais de faire rentrer tous mes œufs dans le même panier. je me prenais la tête sur ma mission, trouver une mission qui engloberait tout, sauf que c'est impossible parce que je suis pas comme ça en fait. Donc déjà j'ai eu un long travail d'acceptation et après j'ai eu un long travail de travail sur ça. Ok, comment je hiérarchise mes activités et tous mes slashs? Et aujourd'hui en fait tout simplement je me fixe un objectif, je l'atteins et tant que j'ai pas atteint cet objectif je ne commence pas de nouveaux trucs en fait. Je fonctionne comme ça.
Oui, donc c'est slash mais quand même tu fais voilà. Bien les choses quoi.
C'est ça, j'essaie vraiment d'être comme ça. Et puis, quand vraiment j'ai de nouvelles envies, des nouvelles idées, de prioriser aussi par rapport à l'argent aussi, hein, de me dire, OK, qu'est-ce qui va me ramener de l'argent à plus court terme pour ensuite pouvoir peut-être me imaginer un projet plus long terme, quoi. Mais c'est pas évident. Et pour les profils comme ça, déjà, c'est s'accepter et ensuite faire un peu le point. Et aussi, un bon conseil que j'ai et qui m'a beaucoup, beaucoup aidée, parce que quand j'étais à Dubaï, j'ai créé un podcast qui s'appelle Histoire de Dubaï, que j'ai gardé pendant 2 ans, qui a énormément aidé de gens à s'installer à Dubaï et à entreprendre à Dubaï, parce que j'interviewais des entrepreneurs à Dubaï. Ça, c'est vraiment de se dire, OK, quand tu lances un nouveau projet ou quand tu as plusieurs projets, en fait, on the go, tu te dis, OK, quelle est ta vision en fait sur ce projet? Est-ce que sur ce projet-là, tu as une vision à 5 ans? Est-ce que tu te vois évoluer dans 5 ans avec ce projet? Si la réponse est oui, tu continues, tu fais en sorte de le monétiser. Si ton objectif, c'est de le monétiser. Sinon, non. Si tu veux le garder en passion, tu gardes en passion. Mais si tu n'as pas de vision en fait long terme sur ce projet, t'arrêtes. Et moi, c'est ce qui est passé avec mon podcast sur Dubaï, qui était un gros projet que j'avais là-bas et que j'avais commencé à monétiser un petit peu à la toute fin. Mais vraiment pas grand-chose. Mais j'avais commencé, à un moment, j'avais trop de projets et je me suis dit, OK, est-ce que je continue? Et en fait, je me dis, OK, à 5 ans, est-ce qu'il m'épanouira toujours ce projet? Ben non, alors j'arrête, tu vois. Et donc ça, c'est aussi pour les gens, en fait, qui ont plusieurs choses et qui ont envie de faire plein de choses, se poser vraiment sur la vision de chaque projet.
Et après, alors, je suis d'accord avec toi, mais je trouve que parfois, il y a certains projets où tu n'as pas forcément de vision, mais intuitivement, tu sais qu'il faut que tu continues.
Ouais, alors ça, c'est encore... Alors, je pense que ça va un temps, en fait, l'intuition. Parce que moi aussi, au début, l'histoire de Dubaï, au départ, c'était vraiment, OK, intuitivement, je savais que je recevais tellement de messages, que ça aidait tellement de gens, que je me disais, mais ouais, mais Vous continuez, mais je trouve que l'intuition, ça dépend entre quoi t'arbitres, mais l'intuition, au final, tes journées, elles font 24 heures. Donc, qu'est-ce qui te rapporte et qu'est-ce que tu peux faire, en fait ?
Oui, t'as quand même le côté pragmatique.
Voilà, c'est ça, exactement.
Et d'ailleurs, c'est bien que t'en parles parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais du rapport à l'argent, parce que donc, toi, effectivement, t'étais salarié.
Ouais.
Après, donc, effectivement, passage, transition pour de l'indépendance. C'était quoi ton rapport à l'argent ? Est-ce que t'étais quelqu'un qui était un peu stressé à ce niveau-là ?
En fait, j'avais jamais été dépendante de quelqu'un, donc, enfin, à part mes parents quand j'étais petite. Mais, et donc ça, au début, je l'ai hyper mal vécu. Je ne l'ai pas très bien vécu, j'avoue. Je l'ai pas très bien vécu, surtout que j'ai eu une longue période du coup de travail sur moi où je n'avais pas forcément d'argent qui rentrait. Donc, je ne l'ai pas très bien vécu. Donc, j'étais beaucoup plus contente quand je contribuais au foyer, quoi.
Ouais.
Donc, aujourd'hui, par contre, voilà. Aujourd'hui, comme je travaille... Alors, aujourd'hui, maintenant, j'ai le chômage. Donc, c'est un petit peu différent, qui n'est pas très élevé, hein, mais bon, parce que voilà, c'est jamais très élevé. J'ai quand même le chômage, mais c'est vrai que c'est toujours un petit peu un sujet, hein, l'argent. C'est sûr que j'ai... En fait, au départ, mon vrai rapport avec l'argent, c'est qu'au départ, j'avais quand même... Parce que du coup, j'y pense quand tu m'en parles. J'avais quand même un syndrome de l'imposteur par rapport à en gagner pas mal sur mes activités, sur mes propres activités. Autant en CDI, je ne me posais pas la question, je bossais, c'est normal, j'avais de l'argent. Autant quand j'étais à mon compte, quand j'ai vendu mes premiers accompagnements, mes premières formations, j'avais un putain de syndrome de l'imposteur sur, en me disant, OK... Parfois, je me limitais en fait moi-même. Je me disais, OK, là, je vends trop de formations. Waouh, je ne suis pas très bien. Je le vivais mal en fait de gagner mon propre argent. J'avais en même temps peur d'en gagner. Ouais, j'avais peur de gagner de l'argent en fait. J'avais peur de ne pas être légitime à gagner de l'argent. C'était un peu bizarre.
Ouais, tu avais une forme de honte à te dire, normal que je gagne trop.
Ouais, voilà. Parfois, j'avais un rapport assez compliqué avec l'argent. Au départ. Et même parfois, j'en gagnais pas trop, hein, mais j'en gagnais, enfin, même souvent, j'en gagnais normalement. Mais juste le fait que cet argent, en fait, vienne de moi, mon travail, c'était un peu bizarre au début. J'avais un petit peu un syndrome, même pas mal un syndrome de l'imposteur par rapport
et
à
en
ça.
Revanche, par contre, ça te stressait pas. Après, tu n'étais pas seule, donc peut-être que tu vois, tu avais quand même cette soupape.
Oui, non, ça me stressait pas, ça allait, parce que je savais qu'on n'était pas non plus sous les ponts et que voilà, fallait adapter notre budget. Adapter notre budget, puis on n'est pas non plus des gros dépensiers. Donc, nous, on avait une vie très simple à Dubaï, et on a une vie simple ici. Alors voilà, on vit dans un bel appartement à Paris, on a deux enfants, mais ça va, on n'est pas. Fais attention, quoi. Et moi, actuellement, forcément, j'ai le chômage, j'ai un petit peu de revenus parce que je garde mon fils, mais. C'est une vraie question, l'argent et la peur de l'argent, c'est une vraie question.
Et ton podcast donc parle pas mal du risque.
Ouais.
C'est quoi pour toi le plus grand risque que tu aies pris ?
J'ai pas pris des grands risques en fait. J'ai fait beaucoup de preuves d'audace dans ma vie. Je suis partie à Hong Kong j'ai signé en fait mon premier CDI à Hong Kong quand j'avais 24 ans. J'étais jamais allée en Asie. Je suis partie toute seule pendant 2 ans. Je suis partie à Dubaï, donc j'ai quitté mon CDI sans savoir vraiment à quoi m'attendre et en n'ayant fait aucun travail sur moi-même. Mais le plus grand risque que j'ai pris, je dirais, c'est d'avoir fait des enfants. Vraiment. Parce que, pour le coup, c'est une sacrée sortie de zone 2, franchement.
Ouais.
Franchement. Et encore plus des enfants rapprochés, je pense que franchement, c'est ça mon plus grand risque. Parce que derrière, on est 4, il faut les assumer.
Ouais.
C'est quand même pas...
Mais alors là, je pense que c'est intéressant ce sujet, parce qu'il y a beaucoup de mères qui écoutent, du coup, le podcast.
Ouais.
Et donc, ce rapport, tu vois, enfant, prise de risque, changement de vie, etc., il est souvent présent. Toi, qu'est-ce que tu conseilles en tant que maman, effectivement, parce que tu prends peut-être pas les mêmes décisions quand t'es seule, quand t'as... des enfants, ou alors pour toi, c'est pas forcément...
Ah bah non, on prend pas du tout les mêmes décisions, hein, c'est clair. Hein, quand on était que tous les deux, on budgétait pas forcément tout, on n'avait pas forcément de budget pour tout. Aujourd'hui, on a un budget sur un tableau Excel au millimètre. Hein. Non mais vraiment, on a sortie, course, fringues, tout.
Ouais.
On a tout au moindre euro. Et en fait, d'ailleurs, je le conseille franchement à toutes les familles de faire ça, parce que sinon, c'est rapidement la galère, je pense.
Oui, mais après, en même temps, tu dis ça, mais t'es partie, ta fille, elle avait quoi, 6 mois ?
5 mois et demi, 6 mois. Ouais.
Partie, donc, c'était pas un énorme risque, mais je veux dire, quand même, tu vois, ça t'a pas empêché, en tout cas, de prendre ta décision.
Ouais, non, par contre, non, pas du tout. Et c'est même vital, en fait, aujourd'hui, je me verrais pas retourner en CDI parce que j'ai besoin aussi de faire ce que j'aime, d'être là pour elle, d'être libre. Enfin, tu vois, c'est vraiment tellement bien d'être là pour mes enfants. Enfin...
Mais tu pourrais quand même privilégier des opportunités de boulot par rapport à ta vie de maman ou quand même ça passe en priorité le bien-être de tes enfants, de, tu vois.
Bah, en fait, c'est mon bien-être à moi en numéro un, en fait. C'est à partir du moment où je suis bien, mes enfants seront bien. Ouais. Donc, en fait, je pense vraiment, parce que c'est... Mais ça se constate tellement. Enfin, moi, dès que je suis bien, mes enfants, ils sont bien parce qu'ils ressentent mon énergie et parce que c'est une énergie commune. Donc, en fait, aujourd'hui, quand j'ai une opportunité, voilà, je sais si moi, ça va me faire du bien en termes de temps passé, en termes de mes objectifs, mes rêves. Et après, du coup, j'accepte en fonction de ça. Et mes enfants, ils sont bien quand je suis bien, mais vraiment, hein, ça, c'est essentiel.
Et du coup, toujours sur la notion de risque, est-ce qu'il y a des invités qui t'ont vraiment bousculé ou, tu vois, ou apporté des choses nouvelles sur ce sujet-là, des gens que tu as pu interviewer ?
Oui, plein. Plein. Je pense vraiment à Philippe Noël, qui est un ancien militaire, qui a développé des méthodes, en fait, de neurosciences, qui, lui, en fait, a pris énormément de risques dans sa vie, enfin, des risques physiques, et qui a perdu l'usage de ses jambes. Et en fait, par la simple visualisation mentale de lui en train de marcher, il a remarché et il a couru en Ironman. Moi, c'est des mecs comme ça qui, au départ, en fait, m'ont appris tellement de choses, en fait, sur ces notions de résilience et sur ces méthodes, en fait, pour tu montres que... Quoi, en fait, quand tu formates ton cerveau à quelque chose, en fait, ça marche, en fait, et tu y arrives, en fait, par des simples méthodes de visualisation. Donc, je ne sais pas si ça m'a appris sur le risque, mais ça m'a appris sur vraiment cette notion, en fait, de résilience et d'aller au-delà, en fait, de se surpasser, en fait, en permanence. Peggy Boucher aussi, qui est la première femme qui a fait le tour de l'Atlantique à la voile, qui, elle, est tombée de son bateau, a failli se faire manger par un requin, qui, par la force du mental, pareil, visualisation, qui a réussi à remonter sur son bateau et à finir, en fait, sa course. Il y en a énormément, en fait, qui m'ont marqué, ouais.
Attends, mais c'est marrant que tu dis ça parce que toi, tu parlais tout à l'heure des projections à 5 ans, tout ça. La visualisation, tu l'utilises un peu dans ton quotidien ou pas?
Quand j'ai du temps, ouais. Ouais. Quand j'ai du temps, actuellement, j'ai pas de temps. Je suis un peu, deux pieds dans mon fils et tout ça. Mais quand j'ai du temps, ouais, j'essaie vraiment de l'utiliser et de le faire chaque matin, tu vois, de plus en plus, tu vois. Me faire une petite visualisation, tu vois, sur une méditation. Faire vraiment visualiser et ça je le fais pas mal. Et ce que je fais aussi, c'est ce que j'ai appris de Léna Champy, que j'ai interviewé sur mon podcast, qui est alors je sais plus comment elle appelle ça malheureusement, mais c'est de libérer son corps, en fait, de scanner, en fait, son corps, de paraître, se mettre un peu en état méditatif et de scanner, en fait, son corps pour libérer, en fait, tous les blocages et les zones de tension auxquelles on peut pas forcément faire attention quand on est dans une vie, en fait, hyperactive. Et ça permet vraiment aussi de retirer, en fait, toutes ces tensions et d'être beaucoup mieux, plus aligné, en fait, au quotidien dans ce qu'on fait. Je me souviens plus comment elle appelle ça.
Ok, non, mais on note. Et peut-être un peu sur le même sujet, mais décalé, est-ce que, donc tu as parlé de beaucoup de choses tout à l'heure sur ton process d'introspection, est-ce que tu as des inspirations, des livres, des personnes, des films qui t'ont aidé dans ce processus ?
Bah, Anne Cazobon, vraiment, que j'ai reçue sur mon podcast, qui est coach en développement personnel, elle m'a beaucoup, beaucoup aidée. Léna Champy aussi, que j'ai interviewée aussi sur mon podcast, qui, est spécialisée, en fait, elle fait sur la neuroplastie, en fait, sur en fait, des tensions. Quand le mental, en fait, n'est pas aligné, ça se répercute sur le corps. Et donc, en fait, c'est que des méthodes, en fait, de libération, en fait, de son mental et de son physique. Elle m'a énormément aidée. Elle m'a même, ça a été une révélation pour moi. En ressources, j'ai écouté en fait beaucoup de podcasts aussi, mais c'est principalement les miens qui m'ont aidée en fait. C'est d'interviewer normal, ouais. En fait ouais. Tous ces gens que j'ai interviewés, j'ai appris en fait de chaque interview, il y a toujours un petit passage de 5 minutes où ça fait tilt. Ouais. En fait, j'ai pas beaucoup lu de livres, j'avoue, ces dernières années. J'ai pas trop eu le temps. Donc, j'ai ces personnes-là que j'ai interviewées sur mon podcast.
C'est déjà pas mal. on arrive bientôt à la fin de cet entretien. J'ai une dernière question rituelle pour toi qui est Quel est ton conseil principal pour les gens qui ont envie de basculer ?
Bah pour moi, c'est de se faire vraiment un objectif smart, très bête, tu vois. Vraiment, pour rappel, tu rappelleras peut-être en barre d'infos les objectifs smart, mais c'est vraiment spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et temporel. Et vraiment de se dire, ok, t'as envie, bah pose-le sur papier en fait, mais vraiment. Genre, pose pas, je vais vendre, je vais lancer une marque éco-responsable dans 2 ans, j'ai envie. Tu dis, ok, le 15 juin, je vais lancer telle marque en ayant fait ça. Enfin, vraiment...
Ouais, j'ai fait un épisode dédié, je le mettrai dans la description
très bien.
Du podcast.
Bah, c'est ça. Mais pour moi, c'est vraiment ça, parce que sans ça, c'est très, très dur de passer à l'action. On va pas démissionner sans rien derrière. Vraiment, voilà, pensez vraiment cet objectif et y aller, surtout y aller, franchement. Mais y aller en ayant fait ça, quand même.
Oui, prendre un risque mesuré.
Voilà, prendre un risque mesuré, quand même.
Ouais, ok. Ouais. Et pour ceux donc, qui veulent en savoir plus sur toi, donc tu as ton compte Instagram Lo From Paris.
Qui centralise tout. Ouais, elle a eu From Paris, qui centralise tout ce que je fais, en fait. Et mon
oui, t'as le compte aussi dédié pour le
mon
podcast.
Mon podcast, la Léa, ouais, mais que je mets aussi, sur lequel je communique aussi sur le From Paris. Et voilà.
Tes services de communication aussi, il me semble
oui,
que t'as un compte
exactement.
Dédié.
Oui, j'ai un compte dédié qui s'appelle le Studio by Lo, mais je suis beaucoup plus présente à ce sujet aussi sur LinkedIn, Laura okay. Pouliken, où je parle de plus en plus de tout ce que je fais.
Ok, super. Merci beaucoup, Laura.
Merci beaucoup, Zara.
Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.